VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Bangui, 18h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Mali, 3 personnes ont été tuées, 28 autres blessées suite à l'explosion d'une mine au passage de leur minibus, situé à 45 minutes à peu près de Gao. Et on apprend également à l'instant que 10 rebelles et 9 militaires auraient été tués lors des derniers combats. Hier, à Léré, des affrontements ont opposé l'armée malienne à des rebelles de la CMA. Les populations du Nord s'inquiètent et doutent de la signature de l'accord de paix du 15 mai prochain. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Le véhicule de forêt se rendait à Doro, à 105 km de Gao, à bord plus d'une vingtaine de personnes. À Anafarka, village situé à 45 km de Gao, il saute sur une mine ce matin, un peu avant 7h locale, faisant 2 morts sur place. Une 3e personne meurt en cours de route et une 4e succombe à ses blessures à l'hôpital régional où plusieurs blessés reçoivent des soins intensifs. Les auteurs de ce crime perpétré contre des civils innocents visaient certainement le convoi de militaires qui escortaient les cars et les camions de Gao à Gossi. Une disposition prise par les autorités militaires après les assassinats de 3 chauffeurs de camions civils qui transportaient du matériel de la MINUSMA la semaine dernière. Cette disposition entrait en application ce jeudi matin. Une situation d'insécurité grandissante qui inquiète les populations du Nord qui commencent à juste titre de douter de la signature d'accord de paix du 15 mai prochain annoncé par les autorités de Bamako et la communauté internationale. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Togo, l'élection présidentielle de samedi a été officiellement reportée par le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé. Toutefois, comme en 2010, l'opposition conteste les résultats, affirmant que des fraudes ont été commises. Les Nations Unies ont estimé, quant à elles, que l'organisation de ces élections avait été crédible et faites d'une façon libre et transparente. Ils se sont également félicités que les Togolais soient allés voter sans violence. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, est au bord de l'implosion. Les adversaires de la direction actuelle du parti annoncent que l'ex-président Laurent Gbagbo est le nouveau chef du parti et que son investiture aura lieu aujourd'hui dans son village d'origine, Mama, à l'occasion d'un congrès. Pascal Affine-Guessan, qui préside officiellement aux destinées du FPI, s'insurge contre les décisions de Mama.
Il n'y a pas de congrès dans le village natal du président Gbagbo. En tout cas, pas de congrès du Front populaire ivoirien, parce que la tenue d'un congrès d'un parti politique obéit à des règles de forme et de fond. Et à ce jour, la direction du Front populaire ivoirien n'a convoqué aucun congrès, ni à Abidjan, ni dans le village natal du président Laurent Gbagbo. Donc on ne peut pas considérer ce rassemblement de militants et de personnes proches du président Gbagbo comme un congrès du FPI.
Pascal Affine-Guessan, président du Front populaire ivoirien, au micro d'Idriss Fall. Burundi, quelques nouvelles également. 9 opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés par la police à Bujumbura. Le gouvernement a fermé l'université pour enrayer la protestation. Dans le même temps, un émissaire américain séjourne dans le pays pour des consultations avec les acteurs politiques et les membres de la société civile. Depuis dimanche, Bujumbura est le théâtre de manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Dans les États de la région, observent la situation en silence. Par contre, l'Union africaine est montée au créneau et déploie des efforts pour mettre fin à cette crise. En Mauritanie, des milliers de personnes ont marché mercredi à Nouakchott en réponse à l'appel des initiateurs du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des descendants d'esclaves appelés les Aratines. Le manifeste est un document qui revendique, entre autres, une discrimination positive en faveur des victimes de l'esclavage. Notre correspondant en Mauritanie était au cœur de cette marche.
Justice, justice, scandent les manifestants. Presque tous les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont pris part à cette marche. Il y avait aussi des organisations de la société civile et autres militants anti-esclavagistes. Les slogans sur les banderoles, non à l'injustice, nous exigeons la discrimination positive en faveur des haratines. Pour cette discrimination positive, justement, le manifeste propose, je cite, de revoir les règles de partage du pouvoir pour attribuer un quota stable de 40% minimum à la communauté haratine au niveau des institutions constitutionnelles, du gouvernement, des administrations et établissements publics et des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Fin de citation. Ce quota de 40% est-il juste? Mohamed Valoul Hendeye est coordinateur du manifeste.
Si on applique l'arithmétique pure et dure, les haratines représentent 57% de la population mauritanienne. Donc si on dit 40%, s'il faut appliquer suivant la proportion dans la population, la part des haratines ne serait pas de 40%. Mais ça, c'est un chiffre qui a été lancé dans le manifeste et c'est une base de négociation.
Ce chiffre de 57% est une estimation. En Mauritanie, aucune statistique officielle ne révèle le poids démographique des haratines ou des autres composantes. Parmi les marcheurs, des militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, ils ont donné de la voix pour demander la libération de leur président, Biramoul Daoul Abeid, et de ses deux co-détenus, Djibi Sow et Brahim Oul Bilal. Le président de IRA et ses co-détenus purgent une peine de 2 ans de prison pour acte de rébellion non armé. Ils ont été arrêtés pendant une caravane contre l'esclavage foncier. Hamadi Oulehbous, militant de IRA Mauritanie.
Notre présence ici entre exactement dans le cadre de la mobilisation générale qui a été enclenchée depuis le 11 novembre. Le refus des haratines de toute la manipulation de l'État, que l'État fait depuis le 11 novembre, l'arrestation des militants des droits de l'homme.
Les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont fortement pris part à cette marche. Idou Moul Mohamed Lemine est du Rassemblement pour la démocratie et l'unité, RDU.
Je suis ici parce que je suis favorable à l'émancipation de toutes les couches défavorisées de mon pays. Je suis favorable à l'égalité absolue entre toutes les composantes du peuple mauritanien. Et je suis favorable à ce qu'une solution soit trouvée au problème des inégalités, quelles qu'elles soient.
Les initiateurs du manifeste ont voulu organiser une marche nationale dépassant les clivages politiques. C'est raté. Aucune formation politique de la majorité soutien du président de la République Mohamed Oul Abdelaziz n'a pris part à cette marche. Le gouvernement mauritanien a pourtant adopté en Conseil des ministres au début de ce mois un projet de loi durcissant les sanctions à l'encontre des auteurs de pratiques esclavagistes. Ce texte passera très prochainement à l'Assemblée nationale. Brahim Dia, à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le président français François Hollande a déclaré aujourd'hui qu'il serait implacable si certains militaires se sont mal comportés, alors que la justice française enquête sur des accusations de viol d'enfants par des soldats français en Centrafrique. Pour sa part, le ministère français de la Défense a indiqué qu'il vérifiait la réalité de ces accusations et assure n'avoir aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Et en Centrafrique, l'ONU, de son côté, a confirmé avoir mené au printemps 2014 une enquête sur des accusations d'abus sexuels commis sur des enfants par les soldats français avant le déploiement de la mission onusienne MINUSCA. Direction les États-Unis avec le retour au calme ici, enfin 45 km, retour au calme à Baltimore, le grand port de l'État du Maryland, fortement secoué par les violences de lundi suite aux obsèques d'un jeune noir, Freddie Gray, décédé après avoir été arrêté par des policiers et embarqué sans ménagement dans un fourgon de police. Le couvre-feu nocturne de la nuit dernière s'est passé sans problème notable et la vie normale a repris. Au Népal, le bilan du séisme s'est encore alourdi à 5 044 morts et plus de 11 000 blessés. Un bilan qui pourrait de nouveau s'alourdir. Beaucoup de villages sont situés à 4 ou 5 jours de marche et n'ont toujours pas été atteints par les secours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Restez avec nous 24 heures sur 24 sur notre site internet voaafrique.com. Bonne soirée à l'écoute de VOA.
Soyez au cœur de